Vous avez beaucoup d'évitements, hein, Philippe Sellers.
D'évitements.
À propos, entre autres, de du dédoublement.
Bon. Autre chose ?
Tel que là, c'est bien frôlé, j'avoue.
Alors ça, c'est ce que Castiglione appelle la sprezzatura. Si j'y réponds sérieusement, c'est pas possible. Non, ça, c'est une contrainte technique. Je suis obligé de répondre avec des envoltures, comme si je me rappelais à peine. C'est rhétorique, c'est pas un évitement. Enfin, je pense pas que ce soit un évitement. Dédoublement, peut-être, vous avez raison. Autre chose ?
Le processus de protection.
Oui.
Sans Julia Kristeva, vous n'en avez pas parlé du tout. Alors qu'elle était quand même au cœur de ce processus.
Oui, bien sûr. Alors, oui, d'accord. Pudeur, je veux bien, oui. Oui.
C'est bien qu'il y ait aussi deux voix.
Ah ben alors là, oui, on rentre dans les choses personnelles, si vous voulez. Alors oui, mariage, enfant, tout ça. Pourquoi pas, moi, non, ça, moi, je n'aime pas.
Avant le mariage, il y a eu quand même la rencontre et un travail...
Ah, et le mariage est très important, monsieur. C'est un homme comme moi, vous savez. Il ne se marie pas deux fois, hein. Oui. Bon.
Avant le mariage, il y a eu la rencontre.
Ah oui, évidemment.
Et un travail.
Mm-hmm. Oui, bien sûr. Oui. Oui, parce que je pense qu'elle va arriver là, quelque part. Donc, c'est mieux si ça a l'air de. C'est mieux si c'est. Pas dit, enfin si c'est pas dit par moi, si ça. C'est le montage, ça.
Passage du ce qu'on appelle les textes abstraits aux narrations beaucoup plus explicites. Et je vous donnerai la réponse de Sellers.
Moi, je les ai perçus plutôt comme une continuité. Cette continuité a voulu s'est inscrite dans un désir d'être présent dans l'époque. Donc il y avait deux mouvements, reprendre ces valeurs culturelles auxquelles il était attaché et qui renvoient donc à encore une fois à la tentative de faire apparaître dans le langage l'intime, le secret, l'indicible, cette espèce de message mallarméen, joycien, et d'autre part une tentative d'être présent dans l'actualité. D'être en quelque sorte compétitif et combatif avec le discours médiatique et le discours de l'actualité.
Alors Sellers a répondu, j'ai mis longtemps à devenir infaillible.
Alors je ne sais pas si c'est une infaillibilité, peut-être avec son ironie permanente on peut lancer cette phrase. Moi j'ai le sentiment que cette infaillibilité, qui peut-être peut être traduite comme une totalité infaillible, ça voudrait dire j'englobe tout, eh bien elle donne aussi l'impression, pour ceux qui lisent à la loupe, d'une complexité et d'une hétérogénéité, d'un éclat tout à fait sidéral. Ça me fait penser plutôt à une autre phrase de Mallarmé, un conte total en formation.
Philippe Sellers, L'intermédiaire, essai, 1963. Logique, essai, 1968. L'écriture et l'expérience des limites, essai, 1971. Sur le matérialisme, essai, 1971. Théorie des exceptions, essai, 1986.
La mort est assez présente dans ce que vous avez dit. Hein.
Non, vous voulez dire la peur de la mort. Oui. Pas vraiment, je crois pas. Je suis toujours dans des calculs plus microscopiques que ça. Si, j'ai peur d'une chose, j'ai peur des grosses choses homogènes, voilà. Ça ne me si on parle de la mort, ça ne me plairait pas de mourir en voyant, comme Proust par exemple, ça m'a toujours frappé, une grosse bonne femme qui rentre dans ma chambre pour faire le ménage et qui représenterait la mort. C'est des histoires pour un homme, c'est des histoires par rapport à sa mère, je crois, ça, des histoires de peur. J'ai pas très peur pour moi, en réalité, je pense pas. Ça m'a toujours frappé que Barthes ait mis cette phrase de qui déjà, Hobbes, non, qui c'est, la grande passion de ma vie aura été la peur. Il a mis ça en exergue dans ses livres. Je sais plus lequel. Probablement avec l'idée que ça peut être une passion érotisable, que ça peut être quelque chose d'érotisable, la peur. Sans aucun doute. Alors justement, le dédoublement a ceci d'intéressant. Celui que je décris comme matrice biographique, c'est que j'ai eu l'impression, il y avait une dissymétrie quand même, bien entendu, mais j'avais l'impression que j'avais deux pères et deux mères, ce qui allégeait considérablement le paysage. Et c'est la question de savoir comment on sort de sa donnée biologique et biographique, c'est-à-dire les parents, tatati, patata, tout ça. Comment on s'y retrouve avec ça, et comment on peut éventuellement, dans la vie qu'on mène plus tard, s'y retrouver avec l'organisme, la cellule, qu'on va soi-même plus ou moins fonder et surmonter. Je constate qu'en général, les gens se débrouillent très mal avec ces deux bouts de ficelle, là, ce qui tire du côté de leur géniteur, de leur généalogie, et du côté, évidemment, de la mise en place de leur cellule de survie, puisque le temps qu'on passe par la condition que nous avons, il faut quand même essayer de gérer à peu près ça bien. C'est possible. Être père, c'est possible de se rendre compte comment on peut l'être, voilà, je crois. Mais encore une fois, c'est une question très taboue. Des pères qui disent leur expérience, qui la disent vraiment, c'est assez rare. Ou alors ça tombe tout de suite au caniveau de la propagande sociologique, etc. C'est une expérience difficile à formuler parce qu'elle est très mystique, c'est vrai. Non, je crois pas que ce soit la peur qui soit chez moi première, mais une bel et bien ce que j'essaye de dire, c'est cette mystérieuse joie. La joie qui sauve, a écrit quelqu'un récemment sur moi, en jouant sur la foi. Alors, pour que cette joie endémique n'est pas l'air d'une béatitude niaise, il faut la faire sortir d'une expérience que, évidemment, j'ai, comme tout le monde, c'est la crainte et le tremblement. D'où il faut essayer de retrouver cette joie qui est toujours plus ou moins perdue. Mes livres commencent plutôt toujours par une sorte de drame. Je me rends compte, je suis en train d'en réécrire un autre, ça va très mal. Les premières pages, c'est comme s'il y avait une catastrophe, un drame. Et puis, au fur et à mesure que ça avance, et presque dès la 4e et 10e page, de nouveau, c'est la joie. Ça peut vouloir dire que dès que j'écris plus, je deviendrai en effet comme tout le monde, c'est-à-dire quelqu'un qui a peur, qui est déprimé, qui trouve que tout est catastrophique et apocalyptique. Et puis que, au fond, c'est comme ça que la condition humaine se vit. Et alors, au fur et à mesure que le langage recommence à jouer, ben, c'est la joie. Voilà, au fond, c'est très simple. Quand on est en plein dans l'écriture, c'est comme si on vivait plus. Comme si on avait un autre corps, un double, qui devient positif. En tout cas pour moi, tout de suite. Je suis très, très à l'extérieur des livres où on sent que l'auteur s'enfonce de plus en plus dans un désespoir catégorique et un jugement négatif sur toute chose. La santé à tout prix.
Peut-être un extrait du Godard Solaire, ce qui s'appelle L'Entretien, qui a été publié après en entier par Art Press.
Jean-Paul Fargier.
Voilà, là c'est un moment où Godard va reprocher ce qu'on reproche souvent à Solaire, c'est d'être quelqu'un qui ne fait que rire, quoi, qui prend rien au sérieux, etc. Alors je crois que l'échange est très intéressant, parce que Godard, lui, se vante de ne faire au contraire que pleurer, quoi, de prendre tout au tragique. Voilà l'extrait, je crois que je me suis bien arrêté dessus.
Dès qu'ils me voient, tout de suite, ils savent que je vais donner 10 francs ou plus, ou si j'ai pas de monnaie, je leur laisse le billet.
Mais tu progresses dans la sainteté.
Non, ça revient. Non, mais toi, tu rigoles tout le temps, et en même temps, c'est très réconfortant, justement.
Non, mais...
C'est très, très... Moi, c'est pour ça que je voulais te voir, peut-être. C'est pour être conforté par un... par quelqu'un qui rit, si on peut dire.
Il me semble que...
Mais tu pleures, des fois.
Oui, mais ça prend la forme du rire. Je
oui, mais tu dis que c'est pareil, mais...
Je pense que c'est...
Physiquement, tu dois beaucoup moins pleurer que moi.
Ah,
moi, on m'en veut beaucoup. On me dit sans arrêt, arrête de faire ton Jésus, si tu veux.
Oui. Moi, on me dit, arrête de faire ton jésuite. Oui, le sentiment permanent, c'est celui alors d'une compassion qu'on n'arrivera jamais à remplir, tellement tout ça est pitoyable. Et puis il n'y a pas de grand art sans pitié, Aristote, etc. D'accord. Je rigole pas tout le temps, non. Vers l'extérieur, c'est mon choix physique, physiologique, mais bon. Il y a la nuit, il y a tout ce qu'il faut, comme position du corps. Tu disais quelque chose là, que de temps en temps tu avais l'impression. Pendant que tu parlais,
moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup chez Solaire, c'est les grands moments tragiques.